Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et voilà le petit jingle qui a été un petit peu coupé. Nous allons tout de suite retrouver notre invité de la matinale ce matin, Marie-Madeleine Doré-Lucas, conseillère municipale d'opposition LFI à Pontivy. Et elle est également conseillère communautaire. Elle nous a rejoint, elle a fait la route depuis Pontivy pour nous rejoindre au micro de la matinale. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler de politique comme on le fait chaque matin au micro de Bretagne 5 matin. Et on va parler évidemment des européennes, grand sujet important pour l'avenir de l'Europe, avec un contexte très particulier pour ces élections européennes qui auront lieu dans à peine 3 mois maintenant. Contexte particulier ici en France, puis contexte particulier en Europe. On sent aujourd'hui que l'enjeu de ces élections européennes va au-delà de l'Europe. C'est aussi un enjeu national.
Oui, effectivement. Force est de constater que l'Union européenne, telle qu'elle existe, ne parle pas aux gens. C'est un discours très technocratique et la population ne se sent pas concernée. Mais en la matière, les pouvoirs publics ont une responsabilité. Nous faisons partie des États les plus anciens de l'Union européenne avec l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux. Et les pouvoirs publics auraient dû instiller de l'éducation populaire pour expliquer comment fonctionne l'Union européenne. Moi, en tant que professeur de droit public spécialisé en droit européen, je me rends compte qu'il y a une méconnaissance totale de ces institutions.
Qui sont compliquées, il faut le dire. Même nous, les journalistes, des fois, on a du mal à comprendre les mécanismes.
Oui, c'est vrai, mais on peut quand même faire un minima des schémas en expliquant que la Commission européenne a le monopole de l'initiative communautaire et que pour aujourd'hui, les 3/4 des décisions qui sont prises, il y a 2 institutions. Le Conseil, avec les représentants des ministres qui se réunissent en fonction de l'ordre du jour, et les députés européen. Mais l'Europe apparaît bien sûr comme une nébuleuse. Quand on ne connaît pas, on est inquiet et on se retourne vers le pire. Et le pire, c'est le Rassemblement national qui va faire un tabac, qui va rafler la mise. Et là, moi, je suis comme mes compatriotes, comme ceux qui adhèrent aux idées de gauche, complètement stupéfiés. Mais la gauche aussi a sa responsabilité, puisque la gauche aujourd'hui a un discours bien souvent trop intellectualisé, ne prenant pas en compte les problématiques populaires. Donc l'Union européenne, en plus, c'est une Union européenne qui est assise sur un credo néolibéral avec le principe de la concurrence libre et non faussée. J'espère qu'on parlera d'agriculture et
d'un
traité de libre-échange. Mais en tout cas, c'est une Union européenne qui n'est pas une Union européenne des peuples, qui n'est pas une Union européenne de la coopération, qui n'est pas une Union européenne de solidarité. Et ça, ça pose question. L'Union européenne, on peut pas tout jeter le bébé et l'eau du bain. L'Union européenne a apporté quand même un certain nombre d'éléments positifs, ne serait-ce qu'en matière environnementale, même si maintenant il y a des directives ou des propositions de directives qui sont critiquables sur les méga camions. Mais en matière environnementale, on a eu par exemple des directives comme la directive en matière de Natura 2000 sur la biodiversité, le programme Erasmus qui a permis et qui permet toujours la mobilité des étudiants Bac+2 sur le territoire de l'Union européenne avec des universités hautes et qui permettent donc à ces étudiants de faire leurs études, d'apprendre une autre langue. Et puis l'Union européenne a apporté aussi beaucoup en matière d'égalité hommes-femmes, ne serait-ce que dans l'accès à un certain nombre d'emplois.
Alors, l'égalité homme-femme, Erasmus, de beaux programmes, de belles définitions, mais toujours cette Europe, et vous le soulignez à l'instant, Marie-Madeleine Doré-Luca, cette Europe qui semble très éloignée des préoccupations aujourd'hui de tout un chacun. On voit l'inflation, on voit les gens qui ont du mal à vivre, qui finalement ne se préoccupent pas de l'Europe, ou se disent parfois même que c'est de la faute de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là, vous parliez tout à l'heure de la responsabilité des forces de gauche, qui n'ont pas su parler peut-être aux classes populaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour, j'allais dire, un petit peu rectifier le tir?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, arrêter de dire « c'est la faute à l'Europe », puisque dans le processus décisionnel, il y a des femmes et des hommes qui décident. Et in fine, le Conseil et le Parlement européen, avec des députés européens qui sont élus au suffrage universel direct. Et puis je pense que, je parlais de la gauche qui a un discours éloigné aujourd'hui des classes populaires, ce que je déplore, mais force est de constater que la classe politique au sens large du terme a pris ce confort de dire c'est la faute à l'Europe et puis c'est ainsi. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que cela.
On a Emmanuel Macron qui a beaucoup parlé ces temps derniers. On va revenir sur l'expression ou les expressions du président de la République, qui doit d'ailleurs s'exprimer demain à la télévision. On a le sentiment aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, qui avait dit finalement on va faire barrage à l'extrême droite, eh bien le barrage n'a pas tenu longtemps, puisqu'on voit les intentions de vote justement pour ces élections européennes flirter, en tout cas pour le Rassemblement national, aux alentours de 30%. C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Il y a une montée des extrêmes au sein de l'Union européenne. On l'aperçoit au sein des pays de l'Europe de l'Est. Donc ça, c'est aussi un rejet de l'Europe libérale. Une Europe très pro-atlantiste, avec ce côté impérialisme de l'OTAN, inféodé, etc. Maintenant, effectivement, si je prends la loi immigration, c'est du copier-coller du programme à l'époque de Jean-Marie Le Pen, droit du sol, etc. Donc c'est déplorable. Et aujourd'hui, les classes populaires qui ont du mal à boucler leur fin de mois du fait de l'inflation, etc., pour ces classes populaires, effectivement, le discours le plus lisible, hélas, au grand hélas, c'est celui du Rassemblement national. Donc, que faut-il faire? Il faut davantage de solidarité, il faut de l'éducation populaire. Les pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, doivent prendre leurs responsabilités. Et ils ne prennent pas leurs responsabilités. On réserve la connaissance à une minorité d'initiés ou une élite.
On a oublié finalement ces classes populaires et aucun mépris dans ma bouche, donc ces classes populaires qui se retournent donc vers le Rassemblement national. Il y a aussi les grands sujets, l'immigration, on l'a dit souvent, c'est finalement la chasse gardée du Rassemblement national ou plus largement de la droite. Il en va de même pour l'insécurité qui n'est pas qu'un sentiment, on l'a vu à Rennes ces derniers jours. Est-ce que la gauche a loupé là encore un tournant pour s'approprier justement ces sujets très graves et très importants?
Oui, elle a loupé un tournant. Alors, elle a agi, mais après coup, il était beaucoup trop tard. Et puis, on sait aussi, on connaît les déclarations d'Hollande lorsqu'il était président de la République. Mais la gauche aussi, et puis les classes politiques, si je puis dire, d'un point de vue général, n'œuvre pas pour un discours de pédagogie qui pourrait contrer les égoïsmes nationaux. Parce qu'aujourd'hui, le repli national est dû à des égoïsmes nationaux qui font des sujets européens un sujet national. Et l'immigration, comme la défense et comme d'autres sujets, il faudrait poser la problématique au niveau de l'Union européenne.
Voilà une forme de solidarité pour pouvoir accueillir les migrants, les bien accueillir aussi. Aujourd'hui, les migrants, on les trouve dans les rues et sous les ponts. Et peut-être réglementer aussi, avoir un accord avec les pays d'où viennent ces migrants, des accords commerciaux, finalement faire de la politique européenne.
Oui, faire de la politique européenne et puis revoir les accords de Schengen, faire autrement. On est trop dans une politique répressive et non pas d'accompagnement. Les immigrés, ce ne sont pas un problème. Ils fuient les guerres, ils fuient le dérèglement climatique. Et ça aussi, il faudrait expliquer, de dire que les immigrés prennent le pain des Français. Franchement, moi j'habite en centre-Bretagne, je les vois à 5h du matin sur le parking du Super U, ils prennent le car pour aller travailler dans les abattoirs de poulets, là où les Français ne veulent plus aller travailler. Donc il faut arrêter ce discours simpliste.
Mmh. Alors, discours simpliste, mais on voit néanmoins la montée en puissance des idées populistes, ou d'extrême droite en Europe, l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, les Pays-Bas, la Finlande, même la Lettonie ou encore la Suède. Et dimanche dernier, le Portugal, où le parti d'extrême droite Chega d'André Ventura a obtenu 18% des suffrages, devenant la troisième force politique du pays. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe bascule à droite, voire plus ?
Ben, c'est pas un sentiment, c'est factuel. L'Europe ne bascule même plus à droite, c'est même plus la droite libérale, c'est l'extrême droite. C'est le retour de la peste brune. Mais tant qu'on ne reverra pas le paradigme du fonctionnement de l'Union européenne, ses politiques d'austérité, le fait que les États membres ne peuvent pas donner d'injonction à la Banque centrale européenne, qui est dans une politique d'austérité, de stabilité des prix, de lutte contre l'inflation. Non, il faut avoir un discours qui est celui de la coopération et celui de la solidarité entre les peuples.
Je disais tout à l'heure que le président de la République allait s'exprimer à la télévision. Il y a eu hier ce vote à l'Assemblée nationale qui, même s'il était, on va dire, symbolique, a acté l'aide à l'Ukraine, l'aide française à l'Ukraine, la France qui va livrer donc de l'armement à l'Ukraine. On a vu que les forces de gauche, en l'occurrence les filles, n'ont pas souhaité voter pour cette... en tout cas, c'est pas une loi, hein, mais en tout cas pour cet engagement.
Avis, c'est un avis consultatif, effectivement, et qui n'est pas un avis conforme. Donc, mais ça a permis au moins de sonder la classe politique. Macron va en guerre. Ses déclarations de déployer des troupes, de donner ou en tout cas d'accompagner avec une aide massive l'Ukraine, les déclarations du président Macron sont très 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 inquiétantes.
On voit d'ailleurs la Russie qui réplique.
Oui, mais elles sont inquiétantes parce que il agit de manière non concertée. N'oublions pas que on prend des risques. Parce que la France, avec la Russie, sont deux puissances dotées de l'arme nucléaire.
On joue un peu avec le feu, là, finalement.
On joue avec le feu, on se met à dos nos alliés et on affaiblit la position de la France. Il faut que la France agisse, ou en tout cas œuvre, à un conflit, à résoudre le conflit Ukraine-Russie de manière concertée sous l'égide du droit international, ce qui n'est pas le cas. On doit être maître d'œuvre ou en tout cas agir pour une résolution du conflit négocié Ukraine-Russie dans le cadre du droit international.
Et là, c'est la diplomatie qui prend le pas, finalement, sur la politique.
Oui, mais bien sûr. Mais la diplomatie qui était vraiment... et qui a fait la grandeur de la France. Et tant mieux, je ne vais pas revenir à la guerre, aux déclarations à l'époque de Villepin. Mais cette diplomatie française, notre fierté nationale, est aujourd'hui réduite, malmenée. L'importance des corps diplomatiques et de la parole, c'est ce qui faisait la grandeur de la France.
Alors cette grandeur de la France, aujourd'hui, effectivement, qui est un petit peu écornée, on l'aura compris, est-ce que la France est encore écoutée aujourd'hui de par le monde ? Est-ce qu'elle joue toujours un rôle important en géopolitique?
Alors, elle joue un rôle quand même géopolitique important, mais la France est beaucoup trop pro-atlantiste, des déclarations avec des positionnements pro-israéliens. Bref, elle ne prend pas la mesure d'être au-dessus de tout cela. Et elle se met à dos les autres pays européens parce que Macron n'a pas compris que la diplomatie, les affaires étrangères, ça doit être discuté avec les autres chefs d'État ou de gouvernement, que ce soit dans le cadre européen ou dans le cadre ensuite international sous l'égide de l'ONU.
Alors on a aujourd'hui, je reviens à l'Europe, parce que finalement on parle d'Europe ce matin, mais je reviens à l'Europe, il y a cette entrée possible de l'Ukraine dans l'Union Européenne, en tout cas la France l'appelle de ses voeux, même si d'autres pays sont un peu plus prudents. On a eu cette crise agricole, alors je dis on a eu, je devrais parler au présent, elle est toujours présente cette crise agricole, les agriculteurs font toujours des actions, on les entend un petit peu moins peut-être sur les ondes des radios et des télés, mais on a une peur des agriculteurs de voir l'Ukraine envahir le marché avec ses produits, récupérer les 13 milliards d'euros de la PAC.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir une Europe équitable? Il ne s'agit pas de fustiger l'Ukraine, évidemment, en l'espèce, mais est-ce qu'il faut avoir une Europe équitable, là aussi, au niveau de l'agriculture, avec quelque chose qui pourrait permettre aux agriculteurs, en tout cas, des dispositions qui pourraient permettre aux agriculteurs de gagner leur vie et de sortir de ces contraintes, finalement?
Oui. Alors, de votre question, elle est intéressante. Elle comporte plusieurs éléments. Et d'abord, la question de l'élargissement ou de l'approfondissement de l'Union européenne. Personnellement, je suis pour l'approfondissement parce que notre Union européenne ne fonctionne pas correctement. Mmh. Il y a un déficit démocratique. Plus on va élargir, plus le déficit démocratique sera important. Ensuite, sur la politique agricole commune, qui a été maintes et maintes fois réformée, une politique agricole commune la plus intégrée qui soit, ça date de 1962, avec des réformes, dont une réforme importante en 1992. C'est une politique agricole commune qui repose sur une aide à l'hectare. Donc plus vous avez d'hectares, plus vous bénéficiez d'aide de la politique agricole commune. Donc c'est un système qui ne va pas, qui encourage une agriculture productiviste avec l'utilisation d'intrants, qui crée des dommages à l'environnement. Et donc nous nous disons qu'il faut aujourd'hui une agriculture qui soit une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'humain. Donc nous sommes pour instaurer des prix planchers pour un juste revenu équitable aux producteurs et aux productrices. Nous sommes pour mettre un terme au traité de libre-échange qui entraîne cette concurrence déloyale. Et si on élargit...
Traités qui ont été signés pour quelques-uns ces derniers jours.
Oui, bien sûr. Et plus on va élargir, plus on va traiter. On va avoir ce genre de traité. Mais en tout cas, pour revenir et rebondir sur le sujet de l'Ukraine, effectivement, en termes de céréales, la concurrence sera rude. Mmh. Donc il faut arrêter, il faut privilégier une préférence d'abord pour nos produits, pour les produits communautaires des paysans de l'Union européenne. Il faut aussi annuler la dette pour les paysans qui se tournent vers l'agriculture biologique. Il faut une aide à l'installation pour assurer cette souveraineté alimentaire. Je lisais le projet de loi d'orientation sur l'avenir de l'agriculture qui va être présenté bientôt à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien sur l'accès au foncier. Donc c'est un problème. Et puis il faut instaurer des clauses de sauvegarde pour empêcher l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales. Donc ça renvoie à la question de l'Ukraine, évidemment. Il faut, lorsqu'on intègre un pays, que ces pays respectent nos normes. Alors, il est sûr que quand un pays adhère, il y a plusieurs années, où on appelle cela une phase de transition avant que le pays adhère véritablement à l'Union européenne. Mais arrêtons cette course en avant à intégrer, sans arrêt intégrer. Quel est le visage que nous voulons donner à l'Union européenne ? Et puis, aujourd'hui, puisqu'on parlait d'agriculture, arrêtons d'opposer les paysans et l'écologie. Les paysans sont eux-mêmes victimes. Dans mon entourage propre, je connais quantité de personnes qui sont atteintes de maladies liées aux pesticides. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire le distinguo entre les petits paysans et les gros exploitants agricoles.
Alors, justement, comment réconcilier ces deux mondes ? C'est difficile.
Alors, comment réconcilier ces deux mondes ? D'abord, expliquer qui fait quoi. Je fais partie des amis de la Confédération paysanne. Et là, on voit bien que la Confédération paysanne œuvre pour justement donner des clés de lecture sur l'intérêt de faire valoir une agriculture biologique, des circuits courts, la relocalisation de la production pour faire vivre et travailler les paysans sur notre territoire. C'est du gagnant-gagnant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui se sont tournés vers le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui soutient les gros exploitants agricoles. Un exemple, Monsieur Rousseau, président de la FNSEA, 700 hectares, gros céréalier de surcroît, qui perçoit des primes colossales de la politique agricole commune.
Là, on voit les deux agricultures, finalement.
Oui. Et puis, puisqu'on parle d'agriculture aussi, puisque j'en connais dans mon milieu, comme je suis issue du pays pour l'être et fille de paysan, le nombre de suicides au sein du milieu paysan, des paysans surendettés. Donc, nous disons aussi qu'il faut mettre en place des plans de trésorerie d'urgence pour lutter contre le surendettement des paysans. Vous avez à peu près 400 000 paysans et vous avez 16% environ d'agriculteurs sous le seuil de pauvreté.
Voilà, ce qui est évidemment dans un pays comme la France assez inadmissible.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Inadmissible, déplorable, que de souffrance pour la famille, les enfants. C'est dramatique. Quand on voit des exploitations agricoles mises aux enchères, je sais de quoi je parle. C'est dramatique, c'est dramatique.
Dramatique pour les familles, dramatique pour les territoires aussi. Vous parliez du centre Bretagne auquel vous êtes très attaché. On l'aura compris. Ce centre Bretagne qui aujourd'hui essaie de s'organiser, de retrouver des services publics. Le transport aussi, parce qu'aujourd'hui on parle des méga camions sur les routes. On aurait peut-être pu imaginer mettre des méga trains, ça serait peut-être bien.
Oui. Ah oui, écoutez, vous prêchez une convaincue. C'est pour cela que, pour revenir aux élections européennes, il faut savoir qu'il y a 5 candidats bretons sur la liste et il n'y a personne, aucun candidat pour le Morbihan. Nous sommes le Centre-Bretagne, une terre oubliée de la République.
Comment vous expliquez ça, qu'il n'y ait pas de candidat ?
Oh, je pense qu'il faut être dans la cour du roi. J'adhère au programme de la NUPES. Je me suis battue pour ce programme. Deux fois, je me suis présentée aux législatives, en 2017, en 2022. J'étais à chaque fois au second tour. Et j'ai fait 44% la seconde fois sur une terre de droite. On nous a obligés, puisque notre département était renouvelable, à nous présenter au sénatorial. J'étais tête de liste au régional avec Pierre-Yves Cadalin. Et là, on est complètement oublié. Oublié parce que le Morbihan est une terre de droite. Mais c'est un mauvais calcul, puisque le Rassemblement national va surfer sur la vague. Et c'est nous oublier, nous, en tant qu'humains. et oublier notre territoire. On se bat pour nos services publics. On était plus de 1000 personnes à défendre notre hôpital du Crazy Braise.
Voilà, j'ai cité les transports, mais il y a l'hôpital, bien
oui,
sûr.
Oui, oui. Et puis, la défense de notre ligne ferroviaire, hein, Pontivy-Saint-Brieuc ou Saint-Brieuc-Pontivy-Auray, pour le désenclavement de notre territoire. Mais rien ne se passe. Et aujourd'hui, on met en place des méga-camions et on oublie le ferroviaire et les petites lignes ferroviaires. Ça va à l'encontre d'une politique environnementale respectueuse des hommes et des territoires face à un dérèglement climatique dont on aperçoit aujourd'hui toutes les conséquences néfastes. Je ne comprends pas, pour revenir à la France insoumise, je suis très déçue. Nous sommes atterrés. Nous sommes beaucoup du Morbihan à être atterrés. Vous savez, il y a la convention de l'Union populaire samedi. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. La coupe est pleine. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis. Je crois que je vais prendre un peu de recul. Mon âme reste à gauche. Je défendrai le programme parce que c'est un programme. L'humain d'abord. Mais le mode de fonctionnement en interne au niveau national de la LFI, je m'interroge beaucoup. Et nous nous interrogeons beaucoup, un certain nombre.
Est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise est à un tournant ? On sent votre déception, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au désarroi, mais en tout cas cette déception.
Pour notre territoire, pour nous, pour notre respect, pour notre engagement.
Et est-ce qu'aujourd'hui, la LFI, est, j'allais presque dire un petit peu à un tournant, alors je ne peux pas parler d'éclatement, mais d'un retour d'une gauche différente peut-être, en tout cas par les composantes de la LFI.
Ben écoutez, si recomposition positive il faut qu'elle se fasse. On ne peut pas continuer comme cela, avec quelques acolytes du roi et le reste mis de côté. Non, ce n'est pas la gauche. Ce n'est pas la gauche à laquelle j'adhère.
Là, on est plutôt dans un fonctionnement jacobin. On oublie un peu le transversal des territoires. Là,
oui, on oublie ce qu'on appelait, puisque vous utilisez le terme de jacobin, on oublie les provinces et on apparaît comme des gueux, nous, en centre-Bretagne. Mais il aurait fallu justement investir le centre-Bretagne. Mais par qui sont-ils conseillés, bon Dieu?
C'est le cri du cœur. Il y a aussi aujourd'hui, Marie-Madeleine Doré-Lucas, ce côté autonomie. On a beaucoup parlé d'autonomie. La Corse s'engage dans cette voie-là. On a entendu Gérald Darmanin hier dire, ça y est, le processus s'engage. Le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, que l'on attend désespérément au micro de Bretagne 5, on l'a invité à venir s'exprimer autour. Ça va peut-être venir. S'est exprimé également à son tour en disant, la Bretagne est toute prête à tester cette autonomie. Région importante, région très marquée par sa culture, par sa politique. Est-ce que c'est peut-être une opportunité, justement, pour les territoires du centre-Bretagne, cette autonomie ?
Alors, autonomie participe du respect de la diversité. L'autonomie peut entrer dans le cadre d'une expérimentation. Maintenant, qu'entend-on par le principe d'autonomie ? Le principe d'autonomie, aujourd'hui, l'article 72 de la Constitution nous dit que les collectivités territoriales s'administrent librement dans le cadre des lois de la République. Ça veut dire que nos collectivités ne peuvent pas légiférer, n'ont pas de pouvoir normatif. Si on arrive à l'autonomie dont parlent Chesnais-Girard et Macron pour la Corse, à ce moment-là, on entrera dans le cas de ce qu'on appelle un État régional ou un contexte régional. C'est-à-dire qu'on passera de la décentralisation à la française où nos collectivités tiennent leurs compétences des lois de la République à un système plus régional où nos collectivités pourront légiférer.
Et c'est là-dessus qu'on va devoir s'arrêter, parce que voilà, je regardais l'horloge, le temps est très court.
Vite.
Marie-Madeleine Doré-Luca, conseillère municipale d'opposition à Pontivy, conseillère communautaire, a parlé avec son cœur ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Très belle journée.
Merci, Truger et d'or.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.